Alléluia. Psaume 121. Nous avons chanté Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimés. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, lorsque nous pouvons voir aussi les combats qui se passent dans la vie des uns et des autres. Même si nous ne vivons pas directement des guérisons, même si nous ne vivons pas directement des délivrances, mais lorsque on lit la Bible, lorsque nous voyons ce que Dieu a fait avec Daniel, ce que Dieu a fait avec David, ce que le Seigneur a fait de Salomon, et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça c'est une bonne nouvelle, que de savoir que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'a pas changé, il est toujours le même. Donc ce qu'il a fait avec David, ce qu'il a fait de Daniel, ce qu'il a fait de Salomon, ce qu'il a fait d'Isaac, ce qu'il a fait d'Abraham, aujourd'hui encore, le Seigneur peut le faire avec toi, peut le faire avec moi. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas changé. Ce n'est pas comme le monde nous apprend ou le monde nous enseigne ou tel que nous le vivons. Aujourd'hui, nous sommes en forme, alors il y a des sourires et quand ça ne va pas, ce sont des injures, quand ça ne va pas, c'est la colère qui se manifeste. Mais la Bible dit que Dieu, il n'y a aucune ombre de variation, rien ne change. Donc Dieu reste toujours le Dieu de justice, le Dieu d'amour. Et ça, quelle que soit la colère, quel que soit le comportement de l'homme, Dieu ne changera pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quelquefois, nous voyons, non pas que nous voyons, nous le vivons aussi. Lorsque je discutais avec un professeur qui participe quelquefois à la correction de certaines épreuves. Et lorsque je lui pose la question, mais comment les notes s'en sont aléatoires d'un correcteur à l'autre? Et il me dit clairement, il me dit, ben, il y a des fois, tu arrives le matin, tu n'es pas de bonne humeur, donc tu vas noter différemment que si tu étais de bonne humeur. Et il dit, ça fonctionne comme ça. Donc tel correcteur va mettre telle note, peut-être qu'il s'est disputé avec sa femme, peut-être que son fils est à l'hôpital. Donc ils sont influencés par leurs émotions qu'ils ne contrôlent pas et qui va déterminer le sort d'une personne. Ça, c'est la justice de l'homme. Mais Dieu, lui, les choses ne sont pas ainsi. Quel que soit le niveau de l'épreuve, quel que soit le niveau de la difficulté, Dieu reste toujours à son même niveau. Dieu reste toujours équitable, reste toujours le Dieu de justice. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimés, d'avoir un Dieu qui ne nous jugera pas en fonction de ses humeurs, mais il jugera en fonction de sa parole. La Bible dit dans le psaume 121, « Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle encore, bien-aimé. Il n'y a que de bonnes nouvelles dans la Bible. Gloire à Dieu. David lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes qui font partie, je dirais, des éléments les plus élevés que Dieu a créés. Et David, en regardant les montagnes, se pose la question, mais d'où me viendra le secours? Le problème est tellement haut, la montagne est tellement haute. Mais il a levé les yeux un peu plus haut que la montagne et il a vu d'où viendra la solution. Quelle que soit la difficulté qui peut être en face, quelle que soit la grande difficulté, si nous levons les yeux encore plus haut que cette difficulté, nous verrons qu'il y a quelque chose qui est encore plus grand que cette montagne. Et David a réalisé, oui, la montagne est peut-être haute, mais il y a un Dieu qui est beaucoup plus haut que la montagne et mon secours me viendra de lui. David a réalisé cela. Il a fait le constat. Et la Bible dit, voici celui qui te garde, ne sommeille ni ne dort. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Quelle assurance de savoir que ce Dieu-là qui te garde, te gardera de jour comme de nuit. Il n'y a pas un autre Dieu qui puisse faire ça. Pendant la journée, il guide tes pas. Pendant la nuit, pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe et c'est ce même Dieu qui te protège, bien-aimé. Le Dieu, l'Éternel. Alléluia. Et il dit au verset 6, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel te gardera de tout mal, de tout ce qui peut arriver, tous les malheurs qu'un homme peut imaginer. La Bible dit que Dieu nous gardera de tous ces maux. Tout le mal qu'on peut chercher à te faire, la Bible dit que Dieu te gardera de ce mal. Mais il ajoute une chose, il gardera ton âme. Alors il y a une différence entre le corps que nous cherchons à tant protéger et entre l'âme que quelquefois nous négligeons, quelquefois nous méprisons. Et le fait de mépriser, c'est de ne pas voir ça comme quelque chose de très très important. On fait plus attention à la beauté du corps que au salut de l'âme bien-aimée. Alléluia. Mais l'âme a soif de Dieu et c'est l'âme qui sera sauvée. Et David dit, il gardera ton âme. La Bible dit dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent faire périr l'âme, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de faire périr votre corps et votre âme. » Donc ne craignez pas les hommes qui peuvent vous frapper, qui peuvent vous insulter, qui peuvent faire mal à ce que le corps physique que nous voyons. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de craindre celui qui est capable de faire périr la partie qui est la plus importante dans le corps humain, c'est-à-dire l'âme. Et la Bible dit que c'est ce Dieu-là qui gardera cette âme. Alors qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Lorsque l'homme, lorsque les chrétiens ont un problème, lorsqu'ils ne sont pas tranquilles en eux, ce sont à partir des moyens physiques, à partir des moyens qui vont satisfaire le corps, qui pensent que l'âme sera guérie, bien-aimé. On ne peut pas soigner avec les médicaments, avec le doliprane, les feralgan, les maux qui concernent l'âme. Tu peux prendre tous les médicaments que tu veux, rien ne se fera. C'est pourquoi les psychologues, les psychiatres qui prétendent avoir la solution pour guérir l'âme passent totalement à côté. Parce que c'est une partie immatérielle. Et David dit que c'est Dieu qui garde cette âme. Aucun homme sur cette terre a le moyen de pouvoir guérir l'âme, de pouvoir décider sur la vie de l'âme. Seul Dieu en a la capacité parce que c'est lui qui en est le créateur. Nous ne pouvons pas faire à la place de Dieu ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas faire à la place de Dieu soigner ce que Dieu a guéri, bien-aimé. Nous ne pouvons pas le faire. Alors nous faisons attention, nous cherchons des solutions physiques pour essayer de satisfaire l'âme. C'est pourquoi il y a tant de personnes qui aujourd'hui sont milliardaires, qui ont pris de la drogue, qui ont plusieurs femmes, qui ont plusieurs enfants, qui ont plusieurs voitures, qui ont de l'argent en quantité innombrable, qu'on ne peut pas compter, bien-aimé, mais qui n'ont toujours pas la paix. On ne peut pas répondre aux besoins de l'âme avec les choses de ce monde, bien-aimé. Ça, c'est une faute, c'est un mal terrible dans lequel beaucoup de chrétiens, malheureusement, vivent. Lorsqu'ils ne sont pas heureux, on court de gauche à droite pour chercher une solution. On court chez des médecins qui vont nous prescrire que des médicaments au lieu d'abord de chercher la solution auprès de Dieu. On court après papa, après maman pour répondre à telle situation au lieu de chercher d'abord la réponse chez Dieu. Alors aujourd'hui, combien de personnes sont dans les dépressions nerveuses? Combien de personnes sont dans le suicide? Mais si les biens de ce monde pouvaient répondre à ces besoins, pourquoi y a-t-il autant de suicides? Pourquoi y a-t-il autant de dépressifs, bien-aimés? C'est parce que le monde n'a aucune solution à apporter par rapport aux maux qui concernent les choses spirituelles. La Bible dit que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Alors on ne peut pas intervenir dans le domaine spirituel avec les moyens des hommes, avec les moyens humains. C'est impossible. C'est totalement impossible. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, non, ne craignez pas. Tous ceux qui peuvent faire du mal dans votre corps, ils ne peuvent pas toucher à votre âme. Et ça, c'est une assurance, bien-aimés, de savoir aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, notre vie est cachée dans le Seigneur. Alors, quelle que soit la manière dont je peux me présenter, quelles que soient les choses que je peux faire, eh bien, l'ennemi ne peut atteindre que tout simplement ce qui est charnel. Mais la partie la plus chère aux yeux de Dieu, ça, il ne peut pas y toucher. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimés. C'est pourquoi les gens, aujourd'hui, qui combattent l'œuvre de Dieu, avec des moyens humains bien-aimés, ce sont des gens qui n'ont rien compris du tout. On ne peut pas combattre les choses de Dieu avec les moyens humains. C'est impossible. Le corps de Dieu, le corps du Christ, c'est avant tout un corps spirituel. Alors les gens qui utilisent toutes sortes de choses humaines pour essayer de combattre les chrétiens, pour essayer de combattre l'Église, ce sont des personnes qui perdent leur temps. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et le Seigneur dit que ce qu'il tient dans sa main, personne ne peut le ravir. Personne ne peut le ravir, bien-aimé. Alors aujourd'hui, lorsque nous voyons des personnes qui sont malades, des personnes qui ont certaines difficultés, des chrétiens qui marchent dans la vérité, certains se réjouissent en pensant que c'est comme ça, que c'est un signe de défaite, bien-aimé. Eh bien, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ce n'est pas un signe de défaite. Les choses physiques ne sont pas la réalité des choses. Ce sont les choses spirituelles qui dominent sur les choses physiques. Et David dit que c'est l'Éternel qui gardera ton âme. Alors, combien de fois, bien-aimé, nous allons continuer à recourir au secours des hommes, recourir au secours du monde pour avoir une satisfaction. Bien-aimé, ce sont des choses vaines. Et je crois que tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes passés par là. Nous avons cherché quelquefois des moyens humains. Mais la Bible dit que l'homme oublie très vite. L'homme oublie très vite. Et déception que nous avons eue auprès des hommes, eh bien, malheureusement, nous répétons encore les mêmes exercices, nous répétons les mêmes erreurs et on passe de plainte en plainte. Mais Dieu dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. On ne peut pas chercher une solution auprès des hommes. Dieu peut utiliser les hommes. Mais la solution, nous devons la chercher d'abord auprès de l'Éternel. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. David était un roi reconnu. C'était un combattant reconnu. Un général d'armée reconnu. Il avait tout un peuple avec lui. Il avait une armée avec lui. Mais il savait que ses victoires ne passaient pas par le peuple. Il savait que les victoires ne passaient pas par le nombre d'armes qu'il avait. Non, la victoire passait d'abord par l'Éternel. Et nous voyons un épisode dans le livre de Josué, devant une toute petite armée. Ils ont perdu la bataille. Alors qu'ils avaient combattu des grands peuples en grand nombre, ils avaient combattu, ils avaient gagné. Et arrivés devant une toute petite ville, ils ont perdu la bataille. La victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas avec des moyens humains que nous pourrons réussir, bien-aimés. Non, le Seigneur dit que c'est par sa parole que nous réussirons. C'est par en mettant notre confiance en lui que nous réussirons. Nous lisons Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, au verset 1er, la Bible dit. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ces princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à Dodan leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Amen. Le Seigneur dit, malheur aux enfants rebelles. Et les enfants rebelles, le Seigneur dit, ce sont ceux qui prennent des décisions, qui prennent des résolutions sans me consulter. Ceux qui gèrent leur propre vie comme s'ils en étaient propriétaires. Dieu dit, ce sont là les rebelles. Et malheur à ces gens-là. Ceux qui vont faire des alliances sans me consulter. Ceux qui vont chercher en l'Égypte du secours, bien-aimé. Et l'Égypte représente le monde. Il dit, mais malheur à vous qui allez chercher du secours dans le monde sans me consulter, sans m'en avertir, sans, me demander la permission. Vous faites les choses. Et Dieu dit, c'est ça les enfants rebelles. Il dit, malheur à vous. Et vous allez comprendre que là où vous avez été chercher du secours, ceux que vous avez consultés sans me voir moi auparavant, vous allez comprendre que toutes ces choses-là, vous les avez faites en vain. Vous allez comprendre que leur secours n'est d'aucune utilité. D'aucune utilité. Beaucoup cherchent, par exemple, ils engagent les gardes du corps. Tu prends un garde du corps pour te protéger, mais le garde du corps, on lui tire dessus, il est mort. Pour que tu comprennes que ce que tu as pris pour garder ton corps, c'est inutile. C'est inutile. Le secours vient de l'Éternel. Et beaucoup aujourd'hui, d'entre nous, nous fonctionnons ainsi. Nous allons chercher des conseils. Au lieu de prendre la Bible, on cherche des conseils auprès de certaines personnes qui pourraient être d'accord avec nous pour se sentir en sécurité. Et Dieu dit, mais tu verras que le conseil de cet homme-là qui t'a donné, tu verras que c'est un conseil qui ne mènera nulle part s'il n'est pas conforme à la Bible. S'il n'est pas dans la ligne de conduite de Dieu, tu verras que c'est un conseil qui reste inutile et tu comprendras que le secours vient seul de l'Éternel. Et quelquefois, lorsque nous disons aller chercher du secours, je dirais dans le monde, ce n'est pas forcément lié à des personnes, ce n'est pas forcément lié à des gens, mais quelquefois c'est lié aussi à notre propre intelligence. Tu veux faire les choses en pensant être intelligent. La Bible dit que Dieu prend les sages à leur propre ruse. Donc l'intelligence avec laquelle tu penses te sauver, Dieu te montrera que c'est vain. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui donne l'intelligence. Les calculs que nous faisons avec le Seigneur, comme nous faisons des mathématiques, en appliquant des formules, en nous souvenant de ce que nous avons fait, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Et toutes ces choses-là, lorsque nous les faisons, le Seigneur nous montrera que ça a été des calculs qui ont été vains, qui n'apporteront rien, qui ne produiront rien du tout. Par notre propre intelligence, on veut régler nos problèmes. J'ai tel problème avec telle personne, alors, d'après mon raisonnement, je pense que si j'adopte telle attitude avec lui, les choses vont changer. Dieu dit que ça, c'est un comportement qui est vain. Et tu verras que, à travers ce comportement-là, bien-aimé, ça ne changera pas. Ce n'est pas par les comportements que nous pouvons changer une personne. C'est dans la prière et par la parole de Dieu. Alors, en adoptant une attitude fermée, en pensant impressionner les autres, Dieu dit que ça, c'est une attitude qui est vaine. Et il te montrera que tu n'impressionnes rien du tout et ça finira très mal. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui est notre garant. C'est lui qui est le responsable, le garant de la vie. C'est lui qui est le propriétaire de l'âme. Et lui seul a la capacité et la possibilité de garder cette chose-là. Nous continuons dans notre texte. Nous allons au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos, dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'on parle de Moïse, que Moïse était un homme fort patient. Bien-aimé, et cette patience-là manifeste la foi que nous pouvons avoir dans le Seigneur. Une personne qui a confiance en Dieu, c'est une personne qui ne va pas s'agiter. C'est une personne qui ne va pas se tracasser. C'est pourquoi la Bible dit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Quelle que soit la nouvelle qu'il apprend, son cœur reste ferme, la Bible dit. Son cœur reste ferme dans le Seigneur parce qu'il sait qui est son Dieu. Il sait qui est son Seigneur. Et la Bible dit que c'est là que sera notre force. Dans cette confiance que nous avons dans le Seigneur, dans la tranquillité, c'est-à-dire le repos. Et lorsque nous sommes en position de tranquillité, en position de repos, c'est une position qui manifeste l'assurance que nous sommes sûrs de qui est notre Seigneur, que nous sommes sûrs de Jésus. Donc tout ça sera manifesté par notre attitude. Et au contraire, on voit beaucoup de personnes qui s'agitent, qui tremblent, qui s'inquiètent pour tout et pour rien. Et ça, c'est la manifestation tout simplement du manque de foi, du manque de tranquillité, du manque d'assurance qui est la démonstration que nous n'avons pas totalement confiance dans le Seigneur. Et lorsque nous sommes ainsi bien-aimés, nous ne pouvons pas être en situation de vainqueur. Passer notre temps à nous rebeller, passer notre temps à nous justifier, non. Une personne qui passe son temps à se justifier, mais c'est une personne qui n'a pas confiance en ce Dieu. Une personne qui passe son temps à se culpabiliser, c'est une personne qui n'a pas confiance en son Dieu. Tu te culpabilises sans arrêt, alors que Dieu dit que si tu confesses ton péché, lui est fidèle et juste pour te pardonner. Mais tu as l'assurance lorsque un homme te dit, ne t'inquiète pas, tout va aller. Mais alors que dans la Bible, c'est déjà écrit, ça ne suffit pas, bien-aimé. Et ça, c'est un manque d'assurance. C'est un manque de tranquillité qui manifeste la faiblesse. Et c'est là où beaucoup, je dirais, sont déstabilisés. Parce que l'ennemi voit tous ces comportements-là. Et il vient, et c'est toutes sortes de combats, c'est toutes sortes de flèches, et on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille parce que notre cœur n'est pas fondé, n'est pas ferme sur la parole de Dieu. David a dit, le secours me vient de l'Éternel. Il y a des personnes qui ont l'assurance lorsqu'elles sont accompagnées de un ou de deux frères bien-aimés. Ça, c'est l'assurance qu'on met dans les hommes. Alléluia. Que ton frère soit avec toi aujourd'hui ou qu'il ne le soit pas, le plus important, c'est que le Seigneur soit avec toi. Ton assurance doit se trouver dans le fait que Dieu est avec toi. Qu'il te manque ceci, qu'il te manque cela, que ton, quand ton manque soit vide, le plus important, c'est que le Seigneur soit avec toi. Alors, tu vas adopter toutes sortes de stratégies pour répondre à ton besoin bien-aimé, mais ça va être que des ronds-points que tu vas faire. Tu tournes en rond, tu tournes en rond et tu n'avances pas. Mais ceux qui font confiance dans le Seigneur, alors avance, grandit, prospère dans les voies que le Seigneur a préparées d'avance pour lui. Alors lorsque le Seigneur dit que votre force soit dans le repos, dans la tranquillité, dans la calme et dans la confiance, le Seigneur veut nous faire comprendre que lorsque nous lisons premièrement ses promesses, que nous puissions comprendre que vraiment Dieu est tout-puissant. Et si aujourd'hui nous pouvons être tranquilles, nous pouvons être en paix, c'est parce que nous réalisons que ce Dieu-là que nous avons accepté, il est au-dessus de tout. La Bible dit dans Daniel 2:21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, bien-aimés. Alors lorsque nous pensons à cette parole-là, eh bien nous sommes dans l'assurance. Parce que celui qui maîtrise les temps et les circonstances, c'est ce que l'homme ne peut pas prévenir. C'est quelque chose qui peut arriver à l'instant même, sans pour autant que tu l'aies prévu. Et la Bible dit que Dieu contrôle même ces choses-là, qui sont inattendues, Dieu le contrôle. Ça, c'est une assurance de savoir que ce Dieu-là qui est au-dessus de tout, eh bien finalement, il est tout puissant. Parce que même ce que l'homme n'a pas prévu, il peut contrôler. Et la Bible dit dans ce passage qu'il change les temps et les circonstances. Donc, il est capable, quelque chose qui allait tomber sur toi, à la dernière seconde de le dévier. Ça, c'est la toute puissance de Dieu. Alors, lorsque nous réalisons que Dieu est capable de faire ces choses-là, eh bien, nous pouvons simplement nous asseoir et vraiment dire oui, je suis dans l'assurance parce que mon Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous lisons le psaume 1. À partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Heureux l'homme qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. La Bible dit « et réussit dans tout ce qu'il fait ». Et ça, c'est l'assurance, bien-aimé, de savoir qu'aujourd'hui, toi qui marches dans les voies du Seigneur, qui n'a rien à te reprocher. Alors la Bible dit « comme l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne se flétrissent point, les feuilles restent vertes ». Il est toujours abreuvé, il ne manque pas d'eau. Il n'est pas desséché parce qu'il est là où le Seigneur veut. Et ça, c'est une assurance de savoir que tu peux t'asseoir tranquillement, être dans le calme et dans le repos parce que tu es à l'endroit là où Dieu t'a placé, où personne ne peut te bouger. Parce que tu es à la place que Dieu t'a donnée et que personne ne peut changer. Ça, c'est une assurance de savoir que parce que je suis là où Dieu m'a demandé d'être, que personne ne peut me faire trembler, personne ne peut m'impressionner parce que je suis dans la volonté de Dieu. Alors, lorsque nous marchons ainsi, bien-aimés, nous comprenons aussi que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu es dans la droiture, tu marches droit avec ton Dieu. Alors tu es conscient que ce qui t'arrive, c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Tu n'es pas là à te tracasser, à te poser des questions. Où est-ce que j'ai péché? Où est-ce que j'ai ouvert la porte? Ce sont des attaques de l'ennemi? Non, parce que tu es là, à la place que Dieu a voulu. Alors ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le veut aussi. Et ça, c'est une assurance, bien-aimée. Et lorsque nous comprenons cela et que nous le réalisons, alors nous sommes dans le calme. Nous sommes dans la tranquillité. Quels que soient les malheurs qui peuvent arriver, quelles que soient les difficultés qui arriveront, mais tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Et ça, personne ne peut le changer. Alors oui, tu es dans le calme et dans le repos. Tu es à l'aise. Et tu bénis le Seigneur pour tout ce qui t'arrive. Parce que tu sais que derrière ça, Dieu prépare une grande victoire. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Accrochons-nous, restons fermes. Reste dans la position du Seigneur. Et effectivement, tu seras comme un arbre. En toute saison, il donne son fruit. Comme le Seigneur a fait les choses avec perfection. alors selon le plan que Dieu a pourvu pour toi, les choses se dérouleront telles que Dieu les a prédestinées à l'avance. Et là, tu es tranquille, tu es ferme, sans craindre, sans te poser des questions, sans redouter les moqueries, sans redouter ce que les autres te diront. Tu as péché, certainement tu as un malheur, certainement tu as fait quelque chose de mal, parce que ce qui t'arrive, ce n'est pas normal. Non, toi, tu sais que c'est normal, parce que ton Dieu a voulu que les choses soient ainsi, bien-aimé. Et là, tu prospères, là, tu grandis. David a été chassé par son fils qui a voulu prendre la royauté. Il est arrivé devant un homme Shimei. Cet homme a voulu l'insulter. Les soldats de David étaient là. Ils ont dit à David, laisse-nous, on va lui faire ça. David a dit, mais non, si cet homme fait ça, c'est que Dieu l'a envoyé. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que j'aime mon Dieu. Je n'ai pas fait de mal à mon Dieu. Alors si le Seigneur permet ça, que son nom soit béni. Et son cœur est ferme, bien-aimé. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Parce que c'est quelqu'un qui avait compris qui était son Dieu. Il savait que ce qui lui arrivait, personne d'autre ne pouvait en être le responsable que Dieu seul. Et il avait confiance en son Dieu. Et il était calme, affermi sur les promesses de Dieu. Alléluia. Nous lisons Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos, que sera votre force, bien-aimé? Et lorsque nous réalisons ce passage-là, nous ne pouvons que être dans la tranquillité. À savoir que celui qui est au-dessus de tout, celui qui est tout-puissant, la Bible dit qu'il a donné son Fils unique pour toi. Ce qu'il avait de plus cher, il a donné pour toi. La valeur de l'âme que le Seigneur a mis en toi, il a donné cette même valeur à son Fils. Il t'a fait égal en prenant la vie de son Fils pour te donner la vie éternelle. Alors lorsque nous réalisons cela, bien-aimés, oui, nous comprenons vraiment que ce que le Seigneur tient dans sa main, personne ne peut le ravir. Parce que ce qu'il tient dans sa main, le Seigneur en a donné la même valeur que le sang de son Fils. Alors lorsque nous réalisons ça, alors nous sommes dans la tranquillité. À savoir, mais si Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, qu'est-ce que Dieu m'empêchera d'avoir sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu me refusera si ce qu'il avait de plus cher, il a donné? Si le Seigneur a donné ce qu'il avait de plus cher pour me donner la vie, à qui le Seigneur permettra de venir me reprendre la vie comme ça gratuitement? Bien-aimé, Dieu ne le permettra pas. Et lorsque nous réalisons cela, oui, nous pouvons être dans le calme, dans la tranquillité, bien-aimé. Et là, nous comprenons, mais à quoi ça sert d'aller chercher du secours ça et là? Si celui qui a donné la vie de son Fils pour moi peut encore me donner d'autres choses, mais pourquoi je ne lui demanderai pas directement? Pourquoi je chercherai toutes sortes de moyens pour me protéger? Pourquoi je chercherai toutes sortes de moyens pour me sentir à l'abri, pour me sentir en paix, alors qu'il a donné ce qui avait plus cher que la paix, ce qui avait plus que tout ce que le monde peut offrir? Dieu l'a donné. Alors je comprends tout simplement, oui, je suis dans l'assurance, je suis dans la paix, parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Alors le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Alors je cherche mon secours, oui, je lève les yeux vers les montagnes, et je sais que le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a donné son Fils unique à la croix pour moi. Ça, c'est ma bonne nouvelle à moi. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans l'assurance parce que la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance, bien-aimés. Alors tout ce que nous devons faire, Dieu a déjà disposé. Alors lorsque tu comprends que tout ce que tu dois faire, Dieu l'a déjà préparé d'avance, pourquoi s'agiter? Pourquoi se poser des questions? Comment je vais servir le Seigneur? Comment, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Mais Dieu dit qu'il a déjà tout préparé d'avance. Ça, bien-aimé, ça doit nous mettre dans l'assurance. Ça doit nous laisser en paix. Fais ta part. Marche dans la voie droite de Dieu. Médite la Bible. Et tout ce que tu dois accomplir, Dieu dit qu'il a déjà préparé d'avance. Souvenez-vous, lorsque le jour de la Pâque devait arriver, Les disciples disent au Seigneur, mais la Pâque arrive, mais que devons-nous préparer? Et où voudrais-tu que nous la préparons? Il dit, vous irez dans telle ville, vous trouverez un homme avec une cruche d'eau. Vous lui direz, le maître a dit que nous venons préparer la Pâque chez toi. Et la Bible dit qu'ils ont fait ainsi. Et lorsqu'ils arrivèrent chez cet homme-là, les choses, la table, les décorations étaient disposées telles que le Seigneur leur avait annoncé. Tout était déjà préparé à l'avance afin qu'ils aient simplement à pratiquer ce que le Seigneur leur avait demandé. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimés. C'est pourquoi ceux qui s'agitent pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur, eh bien, ils ne sont pas, je dirais, dans cette tranquillité. Ils ne sont pas dans le repos parce qu'il y a une réflexion permanente. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois l'autre travailler, tu t'agites parce que toi, tu as l'impression de ne rien faire. Tu vois l'autre prêcher, tu t'agites parce que tu as l'impression de ne rien faire, bien-aimé. Non, dans le calme et dans la tranquillité, c'est là où sera ta force. Dans la confiance en la parole de Dieu. Il dit que ce que toi, tu dois accomplir, il a déjà préparé d'avance. Ne regarde pas aux autres. Sois calme, sois tranquille. Lève les yeux vers Dieu et regarde, le secours viendra de lui, bien-aimé. Ne cherche pas des solutions à gauche, ne cherche pas des solutions à droite. Tu n'en trouveras pas. Ou du moins, celles que tu trouveras finiront un jour par te décevoir. Et là, ça sera les pieds qui vont traîner, la tête va baisser, la démarche va devenir encore lente, les bras seront lâchés, et là, c'est tout le corps qui est fatigué. Mais quand tu sais que ton Dieu a déjà tout prévu pour toi, bien-aimé, tu ne peux qu'être tranquille et attendre tout simplement que sa parole s'accomplisse. Attendre tout simplement que sa volonté soit faite. Et là, véritablement, oui, tu es dans la tranquillité. Tu es dans le repos. Certains diront, mais tu es inconscient. Tu ne fais rien du tout. Certains diront, mais qu'est-ce que tu fais? Tu tournes en rond depuis que tu es là. Non, tu es dans la tranquillité. Si Dieu te dit de ne rien faire, eh bien, tu ne fais rien. Au nom de Jésus, tu es là et tu attends qu'il te demande tout simplement de faire sa part. Mais toi, tu continues à être dans la voie de Dieu, à méditer sa parole, à pratiquer sa parole. Et ensuite, eh bien, l'œuvre que Dieu a préparée pour toi s'accomplira logiquement. Bien-aimés, ne courons pas dans le monde, ne courons pas dans nos réflexions. Ne cherchons pas du secours auprès des hommes. La Bible dit que c'est un secours vain. Et lorsque nous nous entêtons à faire ainsi, ça sera déception sur déception, bien-aimés. Déception sur déception. Et quelquefois, beaucoup de chrétiens ont été confondus. Tu vas voir le pasteur te dit quelque chose qui est contre ta volonté, contre ce que tu espérais. Tu n'entends pas de la bouche du pasteur ce que tu voulais. Alors tu dis, bon, il y a tel frère là-bas, peut-être qu'avec lui, il va un peu me réconforter, ça va aller. Tu vas là-bas, le frère aussi, il te dit la même chose que le pasteur. Tu es confondu, bien-aimé. On ne peut pas troquer la vérité avec le Seigneur. On ne peut pas changer la vérité en mensonge. Mais si tu t'entêtes, alors ça sera pour ta perte. Le Seigneur dit que nous devons chercher notre secours auprès de lui. C'est lui seul qui est notre protecteur. C'est lui seul qui tient l'âme. Et personne sur cette terre n'a la capacité de protéger l'âme que Dieu a créée. Seul Dieu en a la capacité. Alors ne cherche pas à répondre à tes besoins avec les choses de ce monde. Tu vas être satisfait une heure. Tu vas être satisfait deux heures. Mais l'insatisfaction va revenir. Les mauvais raisonnements vont revenir. Et tu vas recommencer à tourner en rond, à te poser des questions, et tout ça, ce n'est que pour ta perte. Malheur à ceux qui consultent, à ceux qui prennent des résolutions sans avertir Dieu. Les décisions que nous prenons, je m'engage dans tel projet, et après ça ne va plus. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais lorsque tu as pris ce projet, est-ce que tu avais demandé au Seigneur? Est-ce que tu avais consulté Dieu lorsque tu as pris cette voie? Est-ce que tu avais consulté? Est-ce que tu avais accepté d'entendre ce que tes yeux ne voulaient pas? Et lorsque nous lisons toujours dans Ésaïe 30, la Bible dit que vous courez après les prophètes pour leur dire ne prophétisez pas la vérité. Vous allez auprès des voyants pour leur dire ne voyez pas la vérité. Parce que vous ne voulez pas entendre ce qui est de Dieu, mais vous voulez entendre tout simplement ce qui va satisfaire votre chair. Et ça, ça mène à la mort. Si tu cours simplement pour entendre ce qui va être comme un bon goût dans ta bouche, bien-aimé, eh bien, un jour, ça finira toujours amer. La Bible dit, heureux celui qui retient la réprimande, même si c'est une parole qui ne te plaît pas, mais reconnais que c'est une parole qui mène à la vie parce qu'elle vient de Dieu. Et si tu cherches la parole des hommes qui vont te satisfaire, elles vont te satisfaire sur le moment, mais la réalité va te rattraper un jour. Il y a des vérités, il y a des réalités qui nous dépassent. Alors ce n'est pas parce que nous ne les comprenons pas que nous allons les balayer du revers, non. Acceptons ce que Dieu nous demande de faire, acceptant là où Dieu nous a placés, en sachant que oui, mais il a donné Jésus-Christ à la croix. Pourquoi Dieu voudrait ton malheur? Pourquoi Dieu voudrait ta perte? Alors à quoi servirait-il qu'il ait donné Jésus-Christ à la croix? Pour rien. Et non, Dieu ne l'a pas fait pour rien, bien-aimé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Levons les yeux et attendons-nous simplement au Seigneur. Ne cherchons pas notre secours dans les hommes, en pensant que la solution viendra d'un homme. Non. La consolation, la Bible dit, vient de l'Éternel. Alléluia.